Je ne vais pas te dire où se trouve le QG des féministas.
Oui, évidemment.
Tu es une femme.
Ok, on va être très ferme.
Nous appelons toutes les femmes de la galaxie à joindre notre mouvement de lutte.
Putain des fennes.
Nous avons aussi besoin d'un porte-parole qui sache écrire.
Les hommes étaient logiques et les femmes lubriques.
Salope!
Salut, salut! En ce samedi de juin et pour la dernière émission de cette saison de Puto Defend, nous avions envie de revenir sur une des principales luttes féminines et féministes de ce siècle, à savoir la lutte pour le droit à l'avortement et à la contraception. Jamais sujet n'avait aussi bien collé à notre générique. Quelle image a-t-on de cette lutte? Des manifs, peut-être un son d'Assemblée nationale en débat houleux, une vision de faiseuse d'ange avec leur aiguille à tricoter. Et du jour au lendemain, Simone Veil, le droit à l'avortement, les cours d'éducation sexuelle avec présentation du lot de contraceptifs. Bref, nous avons de cette lutte une image bien vague, comme l'histoire d'un combat d'un autre âge dont la question fut réglée en quelques jours. Pourtant, nous avions envie d'en savoir plus, comment des femmes, des hommes, des médecins, des non-médecins se sont réunis et organisés. Comment ils ont pour lutter, pratiquer des avortements. Et quelles questions plus globales sur la sexualité et la santé ils se sont posées. Un autre petit bout d'histoire de la lutte pour le droit à l'avortement et à la contraception, c'est ce que l'on vous propose pour cette prochaine heure. Alors avec nous pour en parler, Magali, qui vient nous présenter le fruit de recherches approfondies et collectives sur le sujet assez particulier du MLAC. Salut Magali.
Salut.
Alors d'abord, peut-être pour situer vite fait, en 1942, l'avortement est encore passible de la peine de mort. Il faut attendre 1974 pour une libéralisation totale de la contraception et janvier 1975 pour une dépénalisation de l'avortement par la très connue loi Veil. Entre-temps, évidemment, beaucoup d'événements et entre autres la création d'associations, notamment en 1973, celle du MLAC. Alors, qu'est-ce qu'est exactement le MLAC? Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce mouvement?
Eh bien, en 1973, comme tu l'as dit, se crée officiellement le MLAC, qui est le Mouvement pour la Liberté de l'Avortement et de la Contraception, qui est en fait une association qui regroupe un tas de collectifs, de groupes de femmes qui s'étaient déjà montés avant, d'organisations, d'individus. Et sous cette grande étiquette, il y a tous ces individus et ces groupes qui viennent d'horizons politiques différents, et qui décident de se regrouper pour affirmer plus massivement la revendication de la libération de l'avortement et de la contraception. Et donc les MLAC se créent dans toutes les villes et les campagnes. Très vite, ils se retrouvent à 300 à 400 groupes organisés dans des lieux qui s'appellent les maisons des femmes, qui se mettent à pratiquer l'avortement avec un cadre médical minimum et qui, dont l'activité principale aussi, c'est d'envoyer des femmes dans les pays où l'avortement est légal et de faire de la promotion de la contraception.
Ok. Et du coup, ce mouvement, il naît en 73, il commence à faire des avortements à ce moment-là. C'est assez proche, finalement, de la loi en 75. Et ben, enfin, pourquoi ils se sont montés aussi tard, finalement, enfin...
Et oui, mais je pense que ça remonte plutôt à 71, où il y a les D'accord. fameuses 343 salopes qui publient le fameux manifeste où elles affirment haut et fort avoir avorté, ce qui est complètement illégal et criminel à l'époque. Et... qui ouvre publiquement cette question-là. Et en 72, il y a un groupe qui va en Angleterre et qui ramène la fameuse méthode Carman, qui est une méthode d'avortement qui demande à la fois un cadre médical minimum, et donc qui peut être pratiqué par des non-médecins, qui implique directement les femmes avortées dans le processus d'avortement. Et en fait, c'est dès cette période que l'avortement commence à être pratiqué par les femmes organisées.
Le MLAC commence à pratiquer la méthode Carman. Alors, tu dis que c'est une méthode qui est assez simple, du coup, peut-être. Enfin, est-ce que tu peux nous l'expliquer vite fait en deux mots, quoi, Qu'est-ce que ça applique en moins qu'un curetage, par exemple?
Eh bien, la méthode Kerman, c'est la méthode dite par aspiration, qui consiste à, après avoir dilaté le col de l'utérus, ce qui prend quelques minutes apparemment, on introduit une canule, qui est une espèce de tube avec une ouverture au bout, et tout en faisant quelques mouvements de va-et-vient, il y a une aspiration qui aspire l'intérieur de l'utérus. Donc ça peut être les règles et ça peut être un embryon qui s'installe. Elle nécessite un minimum de médicalisation parce que, elle est très simple, quoi. Une fois que la stérilisation est faite et qu'on s'assure qu'on peut parer aux risques comme des hémorragies ou des choses qui peuvent arriver, il n'y a pas de risque majeur, quoi.
D'accord. Mais du coup, cette méthode, donc elle est pratiquée au MLAC et par des gens qui sont non médecins. Qu'est-ce que ça amène finalement comme questionnement nouveau dans cette lutte, quoi?
Eh bien, avec cette méthode, les femmes se rendent compte qu'elles peuvent prendre en charge elles-mêmes l'avortement, par exemple, ou les problèmes gynécologiques d'une manière générale, en dehors du cercle médical qui, encore plus à cette époque qu'aujourd'hui, est sexiste,
misogyne,
voilà, aux mains de... je sais pas comment dire, de vieux roublards catholiques. Et du coup, elles se rendent compte qu'elles peuvent faire ça, qu'elles peuvent en parler, que c'est pas forcément traumatisant, qu'elles peuvent sortir d'un avortement sans traîner une culpabilité toute leur vie, et que de ça naît une force, quoi. J'ai l'impression que les femmes qui, à ce moment-là, sont prises dans cette histoire, découvrent leur force, quoi. Et qui va, du coup, très vite les amener à vouloir dépasser juste la question de l'avortement et parler de tout, quoi, de l'amour, le sexe, les hommes, les enfants, la lutte.
Alors, en fait, on a un petit passage du film « Regarde à les yeux grands ouverts », qui est un documentaire sur le MLAC d'Aix-en-Provence, et donc où la loi Veil vient de passer, et elle discute entre elles de... est-ce qu'elle continue ou pas, quoi? Voilà.
La bagarre du MLAC sur le plan national a amené ce qu'on peut appeler une victoire. C'est la loi sur l'avortement qui est passée en janvier dernier. Depuis, il y a un certain nombre d'avortements qui se pratiquent dans les hôpitaux partout en France. Et à Aix, ça a commencé depuis quelques mois, puisqu'on est intervenu sur l'hôpital pendant plusieurs mois. Maintenant, je crois qu'il faut vraiment qu'on arrive à prendre une décision. Ça fait 9 mois que la loi sur l'avortement est passée. D'après les renseignements qu'on a, à peu près tous les groupes du MLAC ailleurs sont arrêtés. Pour diverses raisons, parce qu'ils étaient découragés, parce que c'était les médecins qui pratiquaient et que les médecins ont voulu s'arrêter. Bon, nous, c'est vrai que c'est jamais les médecins qui ont pratiqué les avortements dans notre groupe. C'est nous-mêmes et il y a plein de femmes qui ont appris à les pratiquer. Je crois que c'est important, ça va peser dans la décision qu'on va prendre. Mais il y a quelque chose qui a été un peu dur cet été, c'est qu'on est resté 5 ou 6 à continuer la pratique. Et 5 ou 6, c'est vraiment pas assez. Alors pour continuer, il faut qu'on se sente vraiment pas isolé, en tout cas à Aix, même si on est un peu isolé sur le plan national pour le moment. Ce que je propose, bon, c'est rare qu'on le fasse, mais je crois que vraiment il faut qu'on connaisse la vie de chacune. C'est que à tour de rôle, on dit ce qu'on en pense et puis ensuite on prend la décision ensemble.
Moi, ce que je voulais dire, c'est que bon, je n'ai jamais eu de pratique. Je vous ai connue il y a près d'un an. Je suis restée plusieurs mois sans venir aux réunions, mais j'ai gardé quand même un contact très fort avec plusieurs d'entre vous et j'ai vraiment envie de continuer avec vous, d'apprendre à faire des avortements. J'ai envie de continuer avec vous la pratique.
Moi, j'ai avorté il y a quelque temps déjà et puis tout s'est très bien passé et Maintenant, j'aimerais bien avoir des rapports avec vous. Pour l'instant, c'est dur parce que bon, mon milieu familial ne me le permet pas. Alors, si vous continuez, moi, un peu plus tard, je pourrais m'insérer dans votre groupe. C'est ça que j'aimerais bien faire.
Moi, il y a 17 ans, par exemple, j'ai eu un avortement extrêmement douloureux, très, très pénible, parce que j'étais jeune et on m'a laissé le fœtus de 4 mois pendant une nuit dans ma chambre pour bien me faire comprendre qu'il fallait pas recommencer. Donc j'en ai ressorti une culpabilité pendant des années. Et maintenant, quand je vois ce que j'ai revécu récemment avec vous, c'est tellement, tellement différent, c'est tellement autre chose. Enfin, j'ai pu regarder en face que c'était un avortement, j'ai pas eu trop peur. Au contraire, une prise de conscience extraordinaire qui me donne envie maintenant de m'engager et surtout de vous dire, ne vous arrêtez pas.
Un accouchement, normalement, c'est quelque chose de très beau, très chouette, et que moi, je l'ai très mal vécu, et que l'avortement, qui est quand même, c'est pas facile, quoi, c'est quelque chose d'assez dur à vivre. Bon, bah, avec vous, ça s'est très, très bien passé, et c'est une contradiction entre ces deux événements qui est... c'est pas normal, quoi, ça devrait pas se passer comme ça. Alors, je voudrais dire que pour ça, je veux pas que les femmes, elles retournent... à l'hôpital, que ce soit pour avorter ou pour accoucher, et moi non plus d'ailleurs, et que pour ça, je pense qu'il faut qu'on continue.
Moi, j'entends dire, faut continuer. Je me sens pas bien du tout parce que j'aimerais dire, moi, je vais arrêter, et je vais arrêter parce que. Je travaille en équipe, vous le savez, il y a les permanences, il y a les avortements, il y a des réunions. Ça fait, je trouve que ça fait beaucoup, ça fait une charge très lourde et en ce moment je suis très fatiguée. Ça pose aussi des problèmes chez moi par rapport aux enfants. Je n'y suis pratiquement pas, mon mari... le reçoit très mal, il fait des scènes, enfin, moi, je dis j'arrête parce que j'ai besoin de rester un peu chez moi.
Il y a longtemps que je vous connais et que je vous étudie. Au début, j'étais contre, tout à fait. Je disais, qu'est-ce que c'est que ces bonnes femmes qui viennent là à côté et qui essayent de remplacer les gynécos. Mais quand je vous ai vu à l'œuvre, alors ça, j'ai changé totalement.
Il faut absolument continuer parce que cette loi, d'abord, c'est un piège. C'est pas du tout ce qu'on veut. Elle contient pas ce qu'on veut. Elle est incomplète. Et même si elle était bien au niveau de l'hôpital, il peut pas se passer à l'hôpital ce qui se passe quand nous on fait des avortements.
Non, moi je suis pas d'accord avec toi. Et en fait, je suis assez mal à l'aise depuis tout à l'heure. J'entends. Il faut continuer la pratique. Et moi, je pense qu'il ne faut pas la continuer. Enfin, je ne sais pas, mais... on parle là comme si la loi n'était pas passée, justement. Pourtant, si on a pratiqué, si on s'est battu jusqu'à maintenant, c'est bien pour que cette loi passe. Et on fait comme si elle n'était pas passée. Et je ne comprends pas.
Tu vois, Naïk, j'avais envie de te dire, quand on est allé à l'hôpital, on a accompagné les femmes, puis on les a accompagnées jusqu'au bloc opératoire, dans le bloc opératoire. Et vraiment, de voir une femme qui va avorter, alors qu'un avortement, c'est quelque chose de dur, mais c'est tous au fait malade, de voir une femme dans cet état-là, assise sur un fauteuil roulant, avec une petite chemise, là, à attendre complètement seule, dans un couloir. Mais je vois pas ce qu'on a gagné là-dedans, toutes. Parce que cet isolement, c'est pas possible. J'ai vraiment qu'une envie, c'est qu'on continue.
Alors voilà, donc je rappelle que c'était un extrait du film « Regarde, elle a les yeux grands ouverts », documentaire sur le MLAC de Aix en Provence. 9 mois après donc le passage de la loi Veil. Alors on voit bien là que du coup, elle se... poser des questions beaucoup plus globales finalement que celle de l'avortement et notamment sur la médicalisation, la démédicalisation. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus?
Eh ben, en effet, quoi. Pendant tout ce mouvement, toutes ces femmes ont lutté dans la sphère médicale, quoi. Elles sont allées dans les hôpitaux, elles ont pratiqué des avortements dans les hôpitaux, elles ont interpellé les médecins, elles ont... Enfin, pendant tout ce mouvement, des questions s'articulaient entre, bon, il faut une loi pour prendre en charge l'avortement, parce qu'il y a des femmes qui meurent, ça se passe dans des conditions horribles, c'est insensé, quoi. Et à la fois, à l'hôpital, ça reste une opération, ça reste proche de la maladie. C'est pas du tout comme ça qu'on conçoit, enfin qu'elle concevait l'avortement. Et du coup, c'est une question complexe, quoi. Parce qu'à la fois, elles veulent pas que ça se passe à l'hôpital. À la fois, il faut que l'hôpital prenne en charge ce truc-là. Il faut une loi. Il faut que ça soit reconnu. Et voilà, quand la loi passe, elles le disent très bien, ça place directement l'avortement aux mains des médecins. Et en plus, c'est une loi, quoi. C'est pas, certaines ont l'air d'avoir le sentiment que c'est pas une loi qui va les libérer, mais c'est bien elles-mêmes, quoi. C'est bien la pratique des femmes pour elles, ensemble, que...
qui vont permettre son libération,
ouais.
Quoi.
Oui, que c'est comme ça que ça doit se pratiquer, quoi. Pas.
C'est peut-être pour ça que ça s'appelle mouvement pour la libération de l'avortement et pas mouvement pour la légalisation. Ouais, exactement. D'accord. Et du coup, bah, c'est vrai qu'on parle beaucoup du MLAC là, mais enfin, c'était pas la seule organisation qui allait dans ce sens-là. Qu'est-ce que tu connais d'autres expériences de ce type qui ont existé
Eh ben. À cette époque, il y a beaucoup de choses qui sont en mouvement. Ça remue dans tous les sens. Et de ce qu'il en reste aujourd'hui, il y a des groupes qui, par exemple, on pourrait citer Tant qu'on a la santé, qui est une revue qui paraissait assez régulièrement et qui se posait la question du rapport soignant-soigné, de la prise en charge, enfin de la délégation, de la question du soin, etc., et qui ont évidemment posé la question de l'avortement, l'enfantement, etc. Et en parallèle du MLAC, il y a un tas d'autres groupes plus ou moins institutionnels, plus ou moins révolutionnaires, plus ou moins officiels aussi.
Comment t'expliques les questions qui se posaient à ce moment-là, sur la médicalisation entre autres, mais... Enfin, ils sont pas mal aussi posés de questions par rapport à la sexualité, notamment par rapport à la contraception, qui est une sexualité qui n'est pas juste pour concevoir un enfant. Il y a eu toutes ces questions-là qui étaient latentes. Et comment on t'explique que toutes ces questions-là, on a l'impression qu'elles se sont perdues au fil des années, et que, alors qu'elles paraissent pas complètement obsolètes, finalement
Et oui. Elles paraissent tout à fait d'actualité et... Moi, je ne vais pas l'expliquer, mais j'ai l'impression que si le gouvernement a voté cette loi, c'est parce qu'il y était contraint, parce que le mouvement était très puissant et massif, quoi. Du coup, ils font passer la loi, comme ça, ils reconnaissent l'avortement, et très bien, on a fait avancer le droit des femmes, etc. Alors que, évidemment, que l'avortement n'est pas une pratique isolée, que ça pose la question... toutes les questions qui vont autour, la place de la femme dans la société, etc. Mais acter de changements, de ces changements-là, qu'il faudrait complètement modifier les rôles sociaux entre les genres, etc., c'est inacceptable pour un gouvernement ou même pour une société, c'est assez compliqué, quoi. On pourrait dire que c'est un projet révolutionnaire et donc... les gouvernements sont très frileux face à ces questions-là. Et aussi, on pourrait dire que le sexisme les rapports de rôle ou de genre sont profonds, quoi, sont profondément ancrés, et que évidemment que c'est pas une loi qui va changer ça, quoi. Et ça demande beaucoup, quoi, de transformer tout ça.
Oui, ça se fait pas par une loi, quoi. C'est un peu ce que tu me disais quand on préparait l'émission par rapport au à la loi qui vient de passer par rapport au mariage homosexuel.
Et oui, c'est ça. C'est pas parce qu'on acte que les homosexuels peuvent se marier qu'on fait de l'homosexualité quelque chose de, d'accepté, de courant. Et on le voit bien, quoi. Les plus grosses manifestations autour de cette question-là, c'est les réactionnaires de tout poil. C'est une certaine morale qui n'est pas prête à être bouleversée, quoi. Enfin, on peut dire que le sexisme est toujours d'actualité et évolue avec le temps, mais que pour changer ça, il faudrait... Ouais, il faudrait une certaine révolution sociale.
Voilà. Et du coup, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Peut-être ouvrir sur ce qui se passe maintenant, qu'il y a quand même des gens qui se sont réappropriés la question.
Oui, en effet, ces questions restent bien d'actualité. Et il y a des groupes qui continuent à se réunir, à remuer ces questions-là. Le 11 mai dernier, il y a eu à Nantes quelque chose qui s'appelle l'Assemblée de Nantes, qui, j'y étais pas, mais qui est revenue sur l'expérience de cette époque-là et comment aujourd'hui on se repose ces questions. Chaque ville, j'ai l'impression qu'il y a des groupes féministes qui essayent d'extraire ces idées du cercle officiel, institutionnel, ce qui paraît... une approche intéressante.
Bah écoute, merci beaucoup en tout cas. Et puis si est-ce que on sait quand est-ce que le MLAC d'Aix-en-Provence s'est arrêté ?
Eh ben, c'est pas très clair, mais à mon avis, ils ont, enfin de ce que j'en sais, c'est qu'ils ont continué à pratiquer l'avortement après cette fameuse discussion qu'on a entendue. Mais en 76, des personnes sont passées en procès. Je sais pas quelle est l'issue de ce procès, mais il semble que globalement en France, les femmes ont arrêté de pratiquer l'avortement après le passage de la loi. Voilà.
Ok. Merci beaucoup pour ta présence dans ce studio et puis à bientôt peut-être pour approfondir un sujet ou sur un autre sujet ou voilà, on a peut-être encore plein de choses à entendre.
Don't you rock, my daddy?
Après cette rencontre avec Magali, nous avons interviewé Maria, conseillère au planning familial à Lille. On ne pouvait pas parler de la lutte pour la libéralisation de l'avortement sans parler de la création des plannings familiaux et de leur évolution jusqu'à aujourd'hui. Donc avec nous, Maria, bonjour.
Bonjour.
Donc est-ce que tu peux te présenter à nous, expliquer un petit peu ton parcours?
Voilà, donc je travaillais dans une entreprise à 75% de femmes. Puis je me suis aperçue que les femmes, pour leur santé, s'oubliaient un peu. C'était toujours la priorité au mari, aux enfants. Avec les copines, puisque j'étais militante syndicale, avec les copines, on avait décidé de contacter le planning familial de notre ville pour, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, faire une réunion avec le planning familial, parler de la santé des femmes, de la sexualité, de toutes ces choses qui leur tiennent à cœur et pour lesquelles on n'a pas souvent l'occasion de discuter. La sexualité, c'est toujours un peu tabou. Et c'est comme ça que j'étais amenée à rencontrer le planning familial de Roubaix, c'était la ville où je travaillais.
C'était en quelle année ?
C'était à la fin des années 80. Voilà, donc c'est à Roubaix qu'on a contacté le planning familial, on a travaillé avec eux. Ensuite, sur l'île, il y a eu... Parce que le planning familial est à ne pas confondre avec les centres de planification. Le planning familial est une association de loi 1901 et qui est un mouvement national. Les centres de planification, ce sont des centres qui dépendent du Conseil général et qui sont donc... c'est l'administration, si on veut. Là, il y a les centres de PMI, il y a toutes sortes de services à la santé. Ce qui est différent de notre association, le planning familial, qui est un mouvement militant qui lutte pour... le droit des femmes. En ce moment, les thèmes, c'est un remboursement de la contraception, c'est aussi contre les violences faites aux femmes, c'est aussi contre les mariages forcés. Voilà, c'est tous des thèmes pour lesquels on est en chantier.
D'accord. Et donc, à leur création, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est créé ?
Alors, ce que je connais, c'est qu'au début, c'est un groupe d'hommes et de femmes qui ont créé ce qu'on appelait à l'époque l'association Maternité Heureuse, qui est devenue par la suite le planning familial. C'était bien avant 1975, parce qu'il doit y avoir une soixantaine d'années que l'association existe.
Les pratiques, elles ont beaucoup changé depuis cette époque ou...
Il y a eu une évolution. Alors, moi, je n'étais pas là tout au début. Moi, je suis arrivée au planning familial de Lille suite à un changement de majorité au Conseil général, on a coupé les subventions au planning qui ne pouvaient plus fonctionner. Donc... j'ai fait partie du comité de soutien du planning et quand il a fermé, j'ai contacté la petite équipe qui avait envie de remonter une association. Donc on s'est appelé le nouveau planning familial. On a redémarré, donc ça c'était dans les années 1995. Et on a démarré petitement, donc il y a eu des formations pour les nouvelles conseillères. Au début, on a démarré comme centre d'information et ensuite, on est redevenu centre de planification, c'est-à-dire conseillère et médecin.
D'accord. Et du coup, vous conseillez sur quel...
Les interventions des conseillères se font en milieu scolaire. Il y a des lycées, des collèges pour lesquels il y a des conseillères qui vont intervenir sur la sexualité, sur le respect de l'autre. Et puis quand une fille dit non, c'est non, quoi. Ensuite, on fait aussi des permanences dans le centre. Donc là, on accueille plus individuellement des jeunes et des moins jeunes qui viennent s'informer sur surtout des filles, mais il y a aussi des garçons. Sur la contraception, quelle contraception choisir, est-ce que je peux avoir une contraception sans que mes parents soient au courant, comment faire, je n'ai pas les moyens, est-ce que c'est gratuit, voilà, donc on informe là-dessus, on informe aussi sur la prévention, sur les infections sexuellement transmissibles, sur le sida, après sur également sur les interruptions volontaires de grossesse.
Et vous faites de l'information sur l'IVG, mais aussi est-ce que les médecins pratiquent ces interventions au planning familial ?
Non, pas dans les centres de planification ni de planning familial. Au planning familial, non, on ne pratique pas. On pourrait, dans le cas de l'IVG médicamenteuse ambulatoire, s'il y avait une convention entre un centre d'interruption de grossesse, donc entre l'hôpital et le médecin. Parce qu'il y a des médecins, effectivement, qui ont cette convention et qui peuvent pratiquer l'IVG médicamenteuse. Donc la femme, au lieu d'être hospitalisée, reste à son domicile, voilà, mais sous la surveillance du médecin, qui a lui-même une convention avec un centre hospitalier.
Et donc ton travail, toi, au quotidien, c'est donc d'accueillir les personnes qui se présentent au planning et de les orienter selon leurs besoins, c'est ça ?
Exactement. Voilà, selon les demandes, on leur fait l'information de quels sont leurs droits en matière d'IVG, si c'est leur demande. Quels sont leurs droits, les délais, souvent, parce que souvent on se demande si on est encore dans les délais. Ensuite aussi, on accueille des couples, parce que parfois, c'est une décision très difficile à prendre. On n'est pas toujours en couple, en phase sur la décision. Et donc, on vient voir la conseillère pour voir si ça va déclencher, d'en parler avec une tierce personne, parfois ça aide à l'autre à comprendre la décision de la femme, parce que en définitive, c'est toujours la femme qui a la décision.
Et comment depuis, donc tu travailles dans un planning familial depuis 1995, d'après ce que j'ai compris.
À peu près, oui.
Et du coup, comment ça a évolué pour toi ? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un changement de questions, de questionnement, de mentalité, ou pas spécialement ?
Alors, le changement est venu aussi de la loi, puisque pour les IVG, par exemple, l'obligation d'un entretien social obligatoire pour les majeurs n'est plus à faire depuis 2001. Donc, on le voit. Donc, il y a eu ce changement-là. Pour les mineurs, le changement, c'est aussi que maintenant, il faut qu'elles soient accompagnées d'un adulte référent et que ce n'est pas forcément l'autorisation des parents qui est obligatoire. Après, dans la mentalité des personnes, c'est toujours angoissant et c'est toujours pas facile de venir parler de choses intimes avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne sait pas s'il y aura un jugement, comment on va être reçu. Après, dans le centre, qu'est-ce qui m'attend ? C'est toujours les mêmes interrogations. Le fond de l'être humain n'a pas changé là-dessus.
Et les médecins qui sont au planning, ils font les suivis d'avortement et tout ça. Il y a des consultations quand même au planning où c'est vraiment à vocation de conseil et de...
D'information.
Les médecins du planning familial font le suivi de la contraception, font dépiste s'il y a des maladies, etc. Alors, en ce qui concerne l'IVG, les médecins peuvent faire le courrier parce que dans la loi, il y a un délai de réflexion de 7 jours. Et c'est ce délai de réflexion court à partir du moment où on a vu le médecin, un médecin. Donc, le médecin peut faire le courrier. Ainsi, parce que le protocole, il ne faut pas croire que c'est facile d'aller au centre, de dire « je veux interrompre ma grossesse ». Il y a quand même un protocole qui est de 3 rendez-vous obligatoires. Il y a un 4e rendez-vous qui est ce premier rendez-vous de rencontre avec le médecin et qui va faire courir le délai de réflexion de 7 jours. Donc ça, les médecins du planning peuvent faire l'attestation. Il y a le protocole. Le dernier rendez-vous en centre d'IVG pour interrompre la grossesse, que ce soit l'IVG médicamenteuse ou l'IVG par aspiration, c'est une visite de contrôle, c'est-à-dire une prise de sang pour vérifier qu'il n'y a pas d'échec, que c'est réussi. Donc ça, c'est à faire 3 semaines après l'IVG. Donc ça, les médecins du planning peuvent prescrire la prise de sang, etc. D'accord. Mais c'est le seul moment où ils interviennent dans le processus.
Et ça, c'est vrai pour le planning familial où tu travailles, mais est-ce que c'est vrai pour tous les plannings familiaux à peu près ?
Oui, bien sûr. Ouais. C'est pas spécifique au planning familial de Lille.
Et du coup, tu disais tout à l'heure que ça avait été fermé parce qu'il y avait les subventions du Conseil général qui avaient sauté. Donc vous êtes quand même vachement soumis aux aléas politiques.
Tu peux nous parler comme toute association, malheureusement, hein, comme toute association, voilà. Après, ce que défend le planning familial ne devait pas plaire aux politiques qui avaient pris position du Conseil général de l'époque, quoi. Peut-être qu'ils trouvaient que le droit des femmes devait être restreint, que. Parce qu'il y avait le planning familial de Lille, mais il y avait beaucoup de centres de planning familial, donc de notre association, un peu partout dans le département du Nord-Pas-de-Calais. Et ils ont tous dû fermer. À partir du moment où Lille fermait, tous ont dû fermer. Donc,
c'est quand même
un coup, une atteinte forte portée aux droits des femmes.
Et est-ce que ça a été facile de trouver des médecins qui étaient partants pour ce genre de...
Alors, dans le Nord, on a, je pense, parce que je peux parler que du Nord, hein, puisque je ne connais que le Nord. Dans le Nord, on n'a pas eu de difficulté de trouver des médecins qui acceptent de venir travailler au planning familial. Donc, ils assurent des permanences tous les après-midi et le samedi matin. On a essayé aussi de coller à des horaires où les femmes pouvaient être disponibles. Donc, on travaille le soir jusqu'à 19h et le samedi matin pour celles qui ne peuvent pas venir dans la semaine. Si on avait plus de moyens financiers, c'est sûr que les plages d'ouverture du planning seraient beaucoup plus importantes.
Là, du coup, il y a quand même, par rapport à la lutte du MLAC et à la loi sur l'avortement, toute une nouvelle génération qui vient travailler et qui vient au planning, qui ont moins connu donc, le déroulement de cette lutte ou qui ne l'ont pas du tout vécu. Comment est-ce que tu les situerais par rapport à quand ils viennent au planning pour travailler ou pour se renseigner? Enfin, j'ai mal posé la question, mais...
Non, ça va. je pense que j'ai compris. Les jeunes qui viennent au planning, par exemple, pour militer au planning, au départ, ce n'est pas forcément des militants. Il peut y arriver que dedans, effectivement, il y en ait qui soient militants pour le droit des femmes et pour d'autres causes. Ils ne sont pas forcément militants.
Comment est-ce que tu as l'impression que les jeunes se sont réappropriés ou pas du tout, en fait, ces questions-là? Est-ce que c'est... Pour eux, c'est une lutte qui est complètement oubliée, ou est-ce que c'est pas si loin que ça?
Il y a une conscience collective de comment on en est arrivé là.
Les jeunes qui arrivent au planning pour militer, ne connaissent pas forcément l'histoire du mouvement des femmes, enfin du féminisme. Et donc, elles ont en elles, quelque chose de fort par rapport à la condition de la femme, parce que ces dernières années, elles se dégradent. Mais elles ne connaissent pas forcément l'histoire elle-même. Donc, elles le découvrent et ça les...
C'est leur histoire personnelle.
Finalement, voilà. Et ça les conforte de militer au planning. Donc, actuellement, on a vu arriver toute une jeune équipe qui prend les choses en main. Et puis, c'est formidable, quoi. Parce que, voilà, c'est des nouvelles idées. Et ça fait bouger. Ça fait bouger l'association. Après, pour les jeunes qui viennent au planning pour voir la conseillère, j'ai plus le sentiment que la plupart du temps, elles viennent consommer. Elles ne réalisent pas qu'elles sont dans une association militante. Donc parfois, il faut leur préciser d'où vient le planning, d'où viennent les droits dont elles vont bénéficier, que ce soit les droits de la contraception, les droits de l'avortement. Donc il faut leur préciser d'où ils viennent et que ce n'est pas si loin que ça, même si pour la plupart, elles n'étaient pas encore nées, et que un droit, une loi, n'est jamais définitivement acquise et qu'il faut être vigilante pour sauvegarder ces droits précieux, quoi, et les améliorer.
Par rapport à la gratuité des services, du coup, comment ça se passe ?
Pour le planning, on a une convention donc avec le Conseil général où on pratique la gratuité jusque les 20 ans. Hein. Après, en général, les jeunes sont sont assurés sociaux ou bien ils ont une mutuelle étudiante, donc elles payent le tiers payant et voilà, ça suit ce cours-là. Mais avant 20 ans, tout est gratuit. Au point de vue donc médecin et contraception, parce que pour la conseillère, c'est toujours gratuit. Pour l'IVG, depuis le 31 mars de cette année, c'est gratuit aussi. Mais bien évidemment, il y a un certain nombre de documents à apporter, dont notamment la carte vitale, le numéro de sécurité sociale, etc. Mais si la femme souhaite garder l'anonymat, il lui est garanti. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bordereau de sécurité sociale qui part à domicile, parce que ce n'est pas la caisse primaire d'assurance maladie qui rembourse les centres, mais une caisse. C'est géré à part de la caisse primaire d'assurance maladie.
Du coup, il n'y a pas de traces.
Non. Parce que ça, c'est important aussi. C'est important qu'on respecte la confidentialité. Du moment qu'on est adulte, qu'on a 18 ans révolus, on peut accompagner une mineure, on est considéré comme l'adulte référent à la mineure. Et la confidentialité est respectée.
Et tu disais tout à l'heure que tu avais l'impression que le statut de la femme, enfin, etc., se dégrade. Tu as utilisé ce mot-là. Qu'est-ce qui, toi, te fait dire ça, quoi ?
Mon opinion, mais peut-être que je me trompe. Hein. Moi, je pense que la situation de l'emploi a une grande conséquence parce que je pense que quand on travaille, c'est d'une indépendance pour la femme. Ben, je pense qu'actuellement, avec le montée des intégrismes religieux, de n'importe quelle religion, la situation de la femme s'empire et l'enferme dans un rôle qui n'est pas le sien. Et la femme, pour ne pas entrer en conflit avec sa communauté, sa famille ou son conjoint, va accepter un rôle voilà, qui n'est pas le sien, va accepter des choses qui ne lui conviennent pas, mais qui, elle pense, vont l'épargner de conflits avec les proches.
Mais du coup, tu disais que le travail, c'était peut-être une réponse à ça, mais est-ce que c'était pas vrai peut-être à une époque où les gens travaillaient vraiment ensemble et où ils se rencontraient au travail, etc., alors que maintenant, peut-être... Enfin, c'est plus. Enfin, moi, j'ai plus l'impression qu'on pourrait se retrouver dans une usine à 75% de femmes et qu'on se dirait, allez, on fait venir le planning familial. Enfin, j'ai l'impression que maintenant, toutes les vies sont beaucoup plus cloisonnées, quoi. Même en travaillant.
C'est vrai qu'il y a une montée des individualités. Mais en même temps, dans chaque ville, il y a des associations. Il y a des gens formidables ben, qui se mettent ensemble, que ça soit dans les quartiers ou voilà. Et il y a toujours possibilité de rencontrer d'autres personnes.
Merci beaucoup, en tout cas, Maria. Et puis, peut-être, tu as quelque chose à rajouter.
Oui, ce que je voudrais dire, c'est qu'il serait important que la sexualité, le corps de la femme... ou de l'homme, ne soit pas l'affaire des politiques mais, ou des médecins ou de la médecine, mais ça soit vraiment l'affaire de tous. Je voudrais aussi que toutes les contraceptions soient remboursées à 100%. Actuellement, ne serait-ce que pour le patch ou l'anneau vaginal, on a besoin d'une ordonnance du médecin et ce n'est pas remboursé. Voilà.
Bye.
on a rencontré Laura, qui est en train d'achever ses études de médecine générale à Bruxelles. Elle a pratiqué quelques avortements dans des plannings familiaux en Belgique, qui sont pas des hôpitaux, mais plutôt des maisons d'accueil pour ces moments-là, voilà. Laura, est-ce que tu peux te présenter un peu à nous et nous raconter ton parcours ?
Bah alors, j'ai fait des études de médecine à Saragosse. Et pour la quatrième année, j'ai fait un Erasmus à Bruxelles. Puis je retournais à Saragosse pour finir mes études de médecine. Et alors, à la toute fin, j'ai fait un mois de médecine générale en campagne en France. C'était vraiment très intéressant. C'était une médecin, en fait, qui faisait des consultations dans une maison médicale. Donc avec d'autres médecins généralistes, un kiné, un posturologue, un dentiste. Puis après, on faisait des visites à domicile, on allait en maison de retraite et aussi dans des centres pour enfants handicapés. C'était vraiment intéressant.
Tu as bossé dans un planning familial en Belgique. Comment est-ce que tu en es arrivé là par rapport à ton parcours ?
Bah, ça faisait en fait partie des stages que j'ai fait en médecine générale pendant l'Erasmus en Belgique. Donc, c'était une toute petite maison à Rochefort. Donc, c'est un village catholique. Et, du coup, les médecins en fait, qui pratiquent les avortements, ils viennent de Bruxelles parce que les médecins qui sont sur place, en fait, ils subissent trop de pression. Donc, ils préfèrent ne pas aborder les sujets. Enfin, voilà.
De peur de ternir leur image ?
Ouais, enfin, de peur des jugements. Des personnes qui vivent dans la région, parce que bon, quand tu habites sur place, ben c'est quand même pas évident.
Et comment ça se passait là-bas ? Vous aviez quelle pratique ?
Ben, y avait toute une équipe en fait, qui accueille les femmes qui vont dans les centres. Et il y a autant des psychologues que je pense qu'il y a des assistantes sociales aussi qui travaillent en lien, mais alors, je ne suis pas sûre. Et puis il y a les médecins. Et du coup, ils suivent un peu toutes les faces de la vie sexuelle de la femme. Donc, ils abordent un petit peu autant la contraception, l'avortement. Ils font suivi des grossesses, suivi des ménopauses. Et ça peut être très long, en fait. Tu peux vraiment revoir la même personne pendant des années. Mais bon, c'était surtout local, c'était surtout des femmes de la région qui venaient à cet endroit-là. Parce que bon, c'est quand même des centres qui sont un peu parsemés dans toute la Belgique, donc c'est pas les seuls. Après, j'ai pas fait des stages dans d'autres centres comme celui-là, mais en tout cas, c'est un peu un petit point d'information et des discussions autour de la vie de la femme, quoi.
C'est un côté un peu plus intimiste qu'à l'hôpital, c'est pour ça les femmes qui viennent là, elles recherchent plus ça ou...
Oui, je pense que c'est quand même beaucoup plus sympa que de se retrouver à l'hôpital, oui. Effectivement, t'as quand même tout un petit groupe, puis les salles sont très agréables, t'as une petite bibliothèque par exemple, avec des canapés aussi, où tu peux, par exemple, dans les avortements médicamenteux, elles peuvent attendre là l'expulsion. Elles peuvent se reposer là, il y a des lits, elles peuvent aller accompagner, enfin, c'est vraiment très agréable.
Donc, tu es bientôt médecin. Quel regard est-ce que tu portes sur les techniques d'avortement et leur réappropriation possible ?
Actuellement, on pratique l'avortement par curetage, donc par aspiration. Et l'avortement médicamenteux depuis 2001. Il paraît qu'en France, on peut faire l'avortement à domicile et par la méthode médicamenteuse. Et avec une période assez courte d'observation, donc les premières heures, mais je ne suis pas très bien au courant, donc voilà, il faudrait un petit peu creuser la question. Et bon, sinon, on fait souvent les choix de la technique en fonction de la date de la grossesse. Donc on fait médicamenteux jusqu'à 8 semaines d'aménorrhée. Et puis après, on peut faire jusqu'à 12 semaines pour l'aspiration. Donc on peut, en gros, on ne peut pas faire l'avortement médicamenteux à partir de 8 semaines parce que y a beaucoup de complications. Donc on fait que jusqu'à 8 semaines.
Qu'est-ce que tu penses, toi, des différentes techniques ?
Mais ces choix, en fait, sont très personnels. il le vécu peut être très difficile, ça peut aussi amener une sensation de soulagement, donc enfin, chaque femme va porter un peu son choix là-dessus. La prise des médicaments, elle joue beaucoup sur l'équilibre hormonal et ça joue aussi à son tour sur les émotions. Puis l'aspiration, voilà, bah, c'est mécanique. Donc ça peut paraître plus intrusif au niveau physique, mais pour les hormones, c'est aussi intrusif autrement. Après, bon, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui travaillent sur l'avortement par les plantes. Donc c'est un peu la même technique que par les médicaments. Et je pense que c'est un travail très intéressant, ça pourrait ouvrir des pistes, surtout en termes de répropression, mais il faut vraiment encore faire un bon bout de chemin pour trouver les dosages. Enfin, voilà. C'est vraiment une possibilité à explorer. Puis avant, il y a un truc que je trouve vraiment important à ce sujet, c'est de créer des réseaux, des personnes et des lieux qui travaillent ensemble pour penser la question. Parce que si une autonomisation de la question est désirable, ça requiert de se ressaisir de l'évolution du cadre légal pour comprendre tout ce qui est en jeu dans la prise des pouvoirs sur la femme, son corps, sa spiritualité.
Parce que du coup, toi, ton expérience en Belgique, est-ce qu'elle t'a apporté une autre vision de ce qu'il pouvait y avoir en milieu hospitalier?
Alors, j'ai jamais assisté à des avortements au milieu hospitalier.
D'accord, que dans les maisons
Que dans des maisons médicales. Donc je ne saurais pas beaucoup dire sur comment ça se passe au milieu hospitalier. Mais non, mais je trouve que l'approche est vraiment différente. Tu t'adresses à toute une série de personnes qui ont une prise en charge beaucoup plus proche. Et puis voilà, l'ambiance, c'est pas les mêmes rapports à l'hygiénisme. Enfin, il y a quand même beaucoup de différences. Après, au milieu hospitalier aussi, tu peux te retrouver à subir une anesthésie générale, à faire ça avec beaucoup d'autres patients en même temps. Enfin, c'est vraiment une autre ambiance, mais je ne l'ai pas traversée, donc je ne saurais pas vraiment... C'est clair qu'au milieu hospitalier, ça se restreint à un acte technique précis à un moment donné.
Et puis des actes qui sont dissociés les uns des autres, des périodes de vie.
Oui, que voilà, la femme ça sera traverse. Par différentes spécialistes, sûrement pas les mêmes.
À ton avis, quel poids ont eu les féministes au niveau des pratiques médicales liées au corps de la femme? Est-ce que la libération de la femme par ce biais-là s'est réussie, à ton avis?
Je ne sais pas si on peut attribuer à la lutte féministe l'acquisition du droit à élever ses gosses tout seul, toute seule, exercer des professions libérales, de pratiquer des avortements sans savoir donner des explications. Enfin, moi, je crois qu'on s'est plutôt perdu dans l'isolement de la femme que dans sa libération.
Bon, bah voilà, c'est la fin de l'émission. Vous pouvez retrouver le podcast sur Internet, sur le site de Radio Sainte-Afrique, www.radiosainteafrique.com. Et merci à Magali et Anna aussi pour leur témoignage.
Et Maria.
Et sur ce, on vous laisse avec Colette Magny. Bye bye.
Bye bye.
Aux cieux sont partis et la soif malsaine obscurcit mes veines. Qu'ils viennent, le temps dont on s'éprenne. Qu'ils viennent, le temps dont on s'éprenne. Telle la prairie à l'oubli livrée, grandit et fleurit, dansant et livrée, au bourdon farouche des sales mouches. Qu'ils viennent, le temps dont on s'éprenne. Qu'ils viennent, le temps dont on s'éprenne.